Merci d'écouter Inter, il est 9h, le journal, Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour, 20 ans que Paris n'avait pas connu d'extension de son réseau de RER. Événement ce matin avec l'inauguration du RER E qui ira désormais jusqu'à Nanterre. L'aboutissement d'un chantier très complexe pour la SNCF, digne de celui d'une ligne à grande vitesse avec probablement le dernier grand tunnel ferroviaire creusé sous Paris. Un projet qui va changer la vie quotidienne de 600 000 personnes. Il aura mis des années à sortir de terre et même presque un an et demi de plus que prévu, Maxime Debs.
Tout le monde le dit, les chantiers ont toujours du retard. C'eût été étonnant donc qu'un projet de cette ampleur arrive à l'heure. Avec ses 8 km de tunnel creusé en plein cœur de Paris, à 35 mètres de profondeur entre le boulevard Haussmann et Nanterre, une gare monumentale sous la Défense et un budget colossal de près de 6 milliards d'euros, budget qui a explosé de près de 2 milliards au gré des aléas du chantier. Pas tous réglés d'ailleurs ces aléas, puisque ce RER qui reliera Nanterre et Saint-Lazare en à peine 12 minutes, ne circulera que partiellement et surtout qu'aux heures creuses pour commencer entre 10h et 16h. Alors ça peut paraître un peu baroque, ça s'explique par des rames Alstom nouvelle génération qui n'ont pas encore été livrées en nombre suffisant, mais promis, de ce côté-là, tout sera réglé en novembre. De quoi soulager le réseau existant des RER, notamment les lignes B et D, souvent décriées car vieillissantes et en souffrance. Cette nouvelle ligne E devrait capter une partie de leur trafic à hauteur de 12%.
Maxime Debs, le gouvernement y voit le moyen d'augmenter l'offre de logements abordables pour les Français. Les associations dénoncent déjà un assemblage hétéroclite de mesures démagogiques. Le ministre du Logement présentant en Conseil des ministres aujourd'hui son projet de loi qui doit simplifier les procédures pour les promoteurs, assouplir la loi qui impose aux communes un quota de logements sociaux. Autre mesure, le durcissement des règles pour les locataires HLM. Leur loyer sera majoré dès le dépassement d'un euro du plafond de revenus. Les maires auront aussi plus de pouvoir pour attribuer un logement HLM. Pour choisir le 9 juin, vos députés qui siégeront au Parlement européen de Strasbourg, c'est aujourd'hui le dernier jour pour s'inscrire sur les listes électorales. Trop tard pour le faire en ligne, il faut se rendre directement dans sa mairie. Il avait envoyé 18 fausses alertes à la bombe par mail à son lycée de Mont-de-Marsan qui avait été évacué 6 fois entre janvier et mars dernier. Un lycéen de 18 ans condamné hier à 6 mois de prison avec sursis et 210 heures de travaux d'intérêt général. Le tribunal a aussi prononcé une obligation de soins. Et sur la violence des mineurs, début aujourd'hui de la concertation lancée par le ministre de l'Éducation nationale sur l'autorité à l'école. Gabriel Attal semble pourtant avoir déjà tout dit. Des travaux d'intérêt général pour les parents défaillants, des internats pour éloigner les jeunes de leur mauvaise fréquentation, le retrait de points au brevet et au bac pour les élèves perturbateurs. La ministre réunit donc par visioconférence les syndicats et Sonia Princé, ils ne se disent pas convaincus par la méthode.
Ça ressemble à une mascarade de concertation, dénonce un responsable syndical. Le Premier ministre a déjà tout annoncé, dit une autre. C'est d'ailleurs par visio et sans interaction possible que la ministre de l'Éducation nationale présentera le calendrier, la méthode et les questions sur lesquelles les organisations syndicales devront plancher. 3 points, le respect de l'autorité par les élèves, l'implication et la responsabilisation des parents et la sécurité dans les établissements. Guylaine David, secrétaire générale du SNUIPP, principal syndicat du primaire, a vu passer beaucoup de concertations et n'y croit plus.
Des concertations comme ça, on commence à être échaudé parce que on voit bien que c'est une concertation qui ne va que dans un sens et parce que ce n'est pas la méthode du gouvernement de nous entendre en ce moment.
Et même sur le fond, elle n'est pas convaincue.
Déjà, sur le sujet même de la concertation, on est en opposition. C'est-à-dire qu'on peut parler d'autorité à l'école, mais pas d'autoritarisme. Et sauf que toutes les propositions qui ont été faites pour la jeunesse par Gabriel Attal dans son discours de Viry-Châtillon sont plutôt des mesures de répression, de sanctions et de punitions envers les élèves.
Le ministère organisera des réunions de travail à partir de la semaine prochaine. Une consultation au pas de charge. Les conclusions sont attendues mi-juin.
Pas de cours à Sciences Po Paris aujourd'hui. La direction a décidé de fermer les principaux sites parisiens après l'occupation depuis hier soir des locaux par des étudiants toujours mobilisés pour la Palestine. Blocage ce matin aussi de l'école de journalisme de Lille. Gaza où la reconstruction devrait coûter de 30 à 40 milliards de dollars, du jamais vu pour la communauté internationale depuis la Seconde Guerre mondiale, selon les Nations Unies. La Turquie a suspendu hier soir ses relations commerciales avec Israël tant que l'aide humanitaire n'entrera pas de manière ininterrompue à Gaza, tandis que les autorités israéliennes annoncent ce matin le décès de l'un des otages encore détenus, un homme de 49 ans kidnappé dans le kibboutz de Berry. En handball, le PSG éliminé hier soir en quart de finale de la Ligue des Champions par le FC Barcelone. Dernier match européen à 40 ans de l'immense Nicolas Karabatic qui vise encore les Jeux Olympiques. Montpellier éliminé aussi après avoir subi la remontada de Kiel malgré ses 9 buts d'avance du match aller. Ali.
Merci Anaïs Feugas, c'était le journal à 9h05. Bonjour Rebecca Manzoni.
Bonjour Ali.
Elle se prénomme Caroline et elle est à votre micro ce matin.
Elle fut aussi réduite à un tube alors qu'elle a mené bien des vies. Caroline Loeb est l'invitée de Totémique à 9h20.
Et juste avant ça, 15 minutes de plus avec le philosophe Pierre Zawi qui nous parlera des bulles de savon.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
Ce mardi,
je m'appelle Zao.
Faites toujours beau au-dessus des nuages.
Zao de Sagazan, la voix de la nouvelle génération.
Je suis et sûrement pas l'inverse.
Accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Dylan Corley.
Dis-moi ce je t'aime.
Un concert unique en direct et en public sur France Inter ce mardi à partir de 20h.
Grand frais.
Oui, c'est l'envoyé spécial. Désolée pour mon intervention au JT de 13h. Je peux pas. J'ai grand frais. Faut dire que eux aussi sont très forts pour le direct. Et c'est une bonne info pour tous les gourmets.
Chez Grand frais, on travaille en direct avec plus de 1000 producteurs français pour vous garantir qualité et fraîcheur au quotidien. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais,
le meilleur marché.
Merci d'écouter Inter, il est 9h06.
France Inter, Ali Badou, 15 minutes de plus.
Et une apologie des bulles de savon ce matin dans 15 minutes de plus. J'ai le bonheur de recevoir un philosophe, il est maître de conférence à l'université Paris-Cité. Et il fait l'éloge de ces bulles que tous les enfants ont déjà faites, que ce soit avec du liquide vaisselle ou autre forme de savon. Beauté de l'éphémère, apologie des bulles de savon, c'est le titre de l'essai qu'il vient de publier aux éditions du Seuil. Et c'est formidable. Bonjour Pierre Zawi.
Bonjour Ali Badou.
Et bienvenue au mot bulla, c'est ce que vous désignez comme une nouvelle forme d'humanité, mais on va en parler tout à l'heure. Comme chaque semaine, on va commencer, Pierre Zawi, avec une expérience de pensée. Imaginons qu'on est minuscule, quasiment microscopique. On est dans la peau d'un lilliputien, un lilliputien qui vivrait dans une bulle de savon. On vit à l'intérieur, c'est notre monde. Qu'est-ce qu'on ressent ? Est-ce qu'on est émerveillé ou est-ce qu'on est paniqué par la fragilité ?
Ben, je crois qu'on est les deux à la fois. Soit vous êtes émerveillé, un, par tout ce que vous voyez, par la lumière qui s'irise sur la bulle, par l'exploration du monde et vous êtes un peu un enfant ou un poète. Soit vous êtes terrorisé par la fragilité de cette mince pellicule de savon qui vous protège avant de tomber. Et vous êtes plutôt un théologien ou un adulte et vous pensez à la mort et vous pensez à votre condition. C'est ça le thème de l'homo bulla depuis l'Antiquité, depuis Varron.
Justement, expliquez-nous ça.
Et surtout depuis la Renaissance, c'est l'idée
c'est
que
la brièveté de la vie.
Homo bulla est, c'est l'homme est une bulle et c'est cette idée de la brièveté de la vie, qu'on n'est rien du tout et qu'on n'est qu'une pauvre vanité. En ce sens-là, l'apologie des bulles de savon, c'est l'apologie de nos petites vanités. Pas des grandes, mais des petites.
Une phrase sidérante, en tout cas, qui est très étonnante. Tout homme, quel qu'il soit, n'est ni plus ni moins qu'une bulle. C'est une phrase d'Erasme.
C'est une phrase d'Erasme.
Explication de texte, monsieur le professeur.
Dans l'adage 1248, on peut l'entendre de deux manières. On peut l'entendre soit de manière antique, suivant les philosophies anciennes. L'homme n'est qu'une bulle parce que dans son apparence et dans son être-là, il n'a pas de réalité propre. La réalité est dans le monde des idées ou est ailleurs. Soit on peut l'entendre de manière chrétienne, comme l'entend Erasme, c'est-à-dire que la créature n'a pas son être en elle-même, elle a son être qu'en Dieu.
Homo bulla, donc en tout cas la bulle de savon, c'est sans doute le jeu le plus universel. Tous les enfants ont déjà soufflé un jour pour en fabriquer, pour en produire une. Quand on regarde une bulle de savon avec les yeux d'un enfant, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on saisit, Pierre Zawi ?
Alors là, on est dans l'hypothèse. Hein, il faudrait le demander aux enfants.
On l'a tous été un jour ou l'autre.
On l'a tous été un jour ou l'autre, mais les enfants ne sont pas toujours très causants. Ce qu'on ressent, il me semble, c'est là où j'ai tenté une petite cartographie, c'est-à-dire d'essayer de penser la bulle de savon non pas comme un symbole d'autre chose, comme un symbole du monde, comme un symbole de la vie, ou comme un symbole de la condition humaine, ou comme un symbole du temps, mais essayer de penser la bulle de savon vraiment à hauteur d'enfant. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est comme objet? Il me semble que c'est d'abord un désir. Cet objet éclatant, parfait, merveilleux, qui apparaît, puis qui peut disparaître à chaque moment, c'est l'expression même d'un désir, c'est-à-dire la capture d'une attention, et oui. N'importe qui est capté. Vous voyez une bulle de savon dans la rue, vous vous arrêtez.
Immédiatement,
tout le monde. C'est-à-dire que c'est un appareil de capture très sympathique, c'est-à-dire pas très éphémère. Tous les appareils de capture de nos sociétés d'aujourd'hui sont faits pour capter notre attention le plus longtemps possible et être le plus addictif possible. Les bulles de savon, c'est très peu addictif. On s'y intéresse et puis au bout de 5 minutes, c'est fini, on s'en lasse.
Et puis elles disparaissent.
Elles disparaissent et dans cette disparition-là, il n'y a pas nécessairement une tristesse ou une terreur de la brièveté de la vie. Il y a au contraire la jubilation de passer à autre chose.
Mais alors justement, quand on fait l'apologie de la bulle de savon, c'est faire l'apologie de quoi? Du rien, de l'absolument rien?
Alors, en un sens, c'est pas l'absolument rien, c'est le trois fois rien, c'est-à-dire c'est le tout petit peu. Il faut quand même un peu d'eau savonneuse, et puis il faut une paille ou un anneau en plastique, ça coûte très peu cher, donc il faut vraiment très peu de choses, mais c'est, en un sens, oui, c'est une apologie de la pauvreté, c'est-à-dire comment on arrive à produire...
De la pauvreté?
Oui, comment on arrive à produire cette merveille, qui est une merveille incroyablement luxueuse. C'est un objet céleste qui descend au milieu de nous, c'est la sphère, c'est la perfection. C'est la forme la plus parfaite, c'est en plus irisé toutes les couleurs du soleil, s'il fait beau, aujourd'hui on a la chance, il fait beau. Donc en un sens, c'est cet émerveillement absolument premier qui nous est donné, et puis en un autre sens, ça peut être le désir, ça peut être aussi l'expérience du monde. Et là, des physiciens anciens du XVIIIe siècle jusqu'aux physiciens quantiques, à John Wheeler et d'autres, ont pu penser une mousse quantique, que le cœur de la matière...
Mousse quantique.
Une mousse quantique, c'est-à-dire que le cœur de la matière se constituait de petites bulles qui se créeraient, éclateraient à chaque instant. Donc de ce point de vue-là, le petit enfant, sans le savoir, est un grand physicien quantique. Et puis ça peut aussi signifier aussi une apologie de nos vanités, c'est-à-dire nos petites vanités. Les vanités qui passent sont me semblent très aimables. Plutôt que de vouloir faire un bûcher des vanités, on s'y brûle de flamber. Une petite vanité qui flambe toute seule, on met trop le feu à toute chose en ce moment. Là, on est du côté de l'air et on est du côté de l'eau. Je pense que c'est des éléments un peu plus salvateurs.
En suivant ces beautés de l'éphémère, comme vous les appelez, on rencontre évidemment l'art. Et il faut se tourner vers ceux qui ont pratiqué, aimé. Alors il y a les poètes, mais il y a aussi des peintres qu'on croise dans votre livre. Il y a les poètes comme Francis Ponge par exemple, mais il y a donc Rembrandt, et par exemple une toile Cupidon à la bulle de savon. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette peinture déjà?
Alors, Cupidon, on trouve un petit Eros, allongé lascivement sur des tentures luxueuses, et qui porte dans une conque une bulle de savon avec son arc posé à côté de lui. C'est un tableau qu'on trouve à Vienne, et c'est véritablement cette idée que c'est l'objet du désir dans son uchronie, c'est-à-dire quand est-ce que ça naît, quand est-ce que ça disparaît, un désir, personne ne le contrôle.
Et la bulle de savon, c'est le désir.
Ah, c'est l'objet du désir, c'est cet agalma, comme disaient les Grecs, ce trésor qui est au cœur de l'objet du désir et qui fait qu'on désire un tel ou une telle plutôt que les autres.
Dans chaque bulle de savon naît un nouveau monde. Que veut dire cette phrase?
Dans chaque bulle de savon, ça veut dire au moins deux choses. Ça veut dire d'abord qu'il y a dans les bulles de savon, si on est aussi fasciné par ça, c'est que le principe des indiscernables de Leibniz, c'est-à-dire l'idée que tout individu, il n'y a pas deux individus semblables dans la nature, oui, se réalise avec les bulles de savon. Il n'y a aucune bulle de savon qui est la même qu'une autre. Et en plus de ça, il y a cette clôture. Le monde, c'est le cosmos, c'est d'abord l'ordre et c'est la fermeture. Et c'est cette idée d'un monde qui est donnée, c'est-à-dire que c'est pas un objet parmi d'autres, mais c'est au moins une promesse de monde, une promesse de monde qui est toujours déçue. Une promesse de monde qui est toujours déçue, puisqu'au fond, la bulle s'élève dans son autonomie. Un monde, c'est ce qui est clos et ce qui n'a pas besoin du dehors pour exister. C'est ce que promet et qu'elle nous ment, évidemment, la bulle de savon.
On va écouter un son, justement, qui compte beaucoup pour vous, Pierre Zawi.
Que la vie est belle.
Brigitte Fontaine, Ah que la vie est belle. Pourquoi est-ce que ça vous fait penser à une bulle de savon, cette chanson ?
Parce que je crois que voir un enfant souffler une bulle de savon, ou que ce soit, nous rend possible de chanter à nouveau « Ah que la vie est belle ». C'est Adorno dans les Minima Moralia, bon, il écrit ça pendant la Seconde Guerre mondiale, qui dit à propos du Don Carlos de Schiller, quand il s'écrit « Ah que la vie est belle », à l'acte 4, que c'était une beauté de carton-pâte, « que la vie n'est pas belle ». Et on pourrait dire exactement la même chose aujourd'hui, face à l'Ukraine, face à Gaza, on peut pas dire que la vie est belle. Pour pouvoir dire encore que la vie est belle, je crois que c'est assez important, sinon on va tous mourir, il n'y a plus aucune raison même de se battre, il faut être capable de se mettre à la hauteur d'enfants ou l'auteur des Cacous de Brigitte Fontaine.
Oui.
C'est-à-dire, il y a ce côté kitsch et innocent. La vie est belle si on lui donne pas trop d'importance. Si la vie, on la prend avec sérieux ou avec gravité, ben non, elle est atroce. Regardez autour de nous. Elle n'est belle que dans le regard d'un enfant qu'il faut pas perdre.
Et si les bulles n'éclataient pas, Pierre Zawi ?
Ce serait une catastrophe absolue.
Ce serait une catastrophe.
Mais comme dans les piscines à bulles des... ce qui est merveilleux dans la bulle, c'est que ça disparaît. Ça nous fait aimer, de ce point de vue-là, la disparition. C'est très très beau que il faut, dès qu'on est dans des multiplicités grandes, que les bulles disparaissent pour laisser place à d'autres.
Mais du coup, dans votre livre, on a une invitation à réfléchir ou à se concentrer sur ces beautés de l'éphémère, comme vous les appelez. On peut se dire qu'après tout, ce qui est beau, c'est justement ce qui n'est pas éphémère. C'est l'œuvre d'art, c'est ce qui dure, c'est ce qui reste. Pourquoi chercher ou comment trouver de la beauté dans ce qui est voué à passer ?
Je pense qu'il y a deux beautés. C'est pas une critique des beautés durables, mais c'est une apologie. Je pense qu'on vit avec, qu'on a besoin de ces deux types de beauté. Il y a des beautés qui visent à l'éternité, avec toute l'immense vanité que ça porte aussi, d'être à l'auteur de Dieu. Mais la vanité qui passe et qui est éphémère n'est pas nécessairement totalement vide, puisque c'est au fond par elle. Et c'est par ces petits moments, comme de la même manière que la plupart des grandes symphonies ou des grands morceaux de musique repose sur des petits, au départ, des petits airs ou des petites chansons populaires qui ont disparu depuis longtemps. Bon, c'est depuis ces beautés de l'éphémère qui peuvent nourrir les grandes beautés.
Et c'est incroyable d'ailleurs de partir de cet objet qu'est la bulle de savon pour réfléchir à la condition humaine, pour croiser alors la naissance de Vénus de Botticelli. D'ailleurs, Aphrodite, ça vient d'un mot grec aphros qui veut dire...
qui veut dire l'écume.
Et donc, on retrouve les sphères et les bulles. Et vous croisez Chardin et ses bulles de savon. Il y a aussi Jeff Koons dans l'art très contemporain. Ces fragments de l'enfance, ils se retrouvent même dans le langage. Quand on dit « buller au soleil », qu'est-ce que ça veut dire ?
Bah, buller au soleil, c'est perdre son temps. Comme dit Rabelais, quand Panurge souffle des bulles, alors c'est pas vraiment des bulles de savon, c'est plutôt des gargouillis de salive.
Oui.
Mais quand il souffle des bulles dans une paille de Pantagruélo, il dit hausser le temps en calme. C'est juste passer le temps. C'est être capable, si vous voulez, cette apologie, c'est une apologie des interrupteurs. C'est d'être capable de s'interrompre et de pas donner trop de sens non plus à toutes les choses que l'on fait.
Pas trop de sens ?
Non, pas trop de sens. C'est-à-dire qu'on
Parce que c'est absurde.
On est écrasé par le sens, mais l'absurdité, c'est aussi la légèreté. Là où il n'y a pas de sens, il n'y a pas non plus de non-sens. On peut vivre, et il y a beaucoup de choses qui nous font vivre au quotidien, dans nos habitudes, dans nos rapports aux choses, qui n'ont pas besoin de sens pour exister. Dès que vous posez la question du sens, c'est peut-être que votre désir est en train de s'éteindre ou de s'abîmer.
Et le paradoxe, c'est que la bulle, elle est extrêmement fragile, mais elle donne l'impression de nous protéger. Elle donne l'impression d'être comme un foyer. D'ailleurs, vous faites même une comparaison qui paraît étonnante, vous parlez du dôme de fer pour expliquer ce qu'est une bulle, la bulle de savon. Alors
ça, c'est la grande thèse de Sloterdijk, de dire l'humanité...
Le philosophe allemand.
Le philosophe allemand, Peter Sloterdijk, qui dans Bulle, comme son nom l'indique, pense la bulle comme, au fond, la construction de l'humanité depuis qu'elle existe, c'est-à-dire qu'on ne fait que construire des bulles autour de nous, des cocons, la bulle des remparts, la bulle de... C'est là où je parlais du dôme de fer, puisqu'au fond, c'est au fond cette métaphore de la bulle. Et il y a dans cette idée de vivre dans des bulles, et c'est là le cas du dôme de fer, dans des bulles qui soient des bulles éternelles et des protections absolues, quelque chose de monstrueux. La beauté des petites bulles de savon, c'est que c'est justement fait pour être des protections pour rire, comme les petites cabanes d'enfants.
Oui. Et elle donne à chaque fois l'image d'un monde différent, en ce sens, et je vous cite, la vérité de la notion de monde est bien toujours du côté de la chimère, de la fiction, de l'imagination débridée, et c'est vrai que c'est un objet qui ressemble à quelque chose de complètement fictif et d'imaginaire, la bulle de savon, et tous les enfants le savent. La morale de l'histoire, Pierre Zawi ?
En un sens, il n'y en a pas.
Les bulles de savon n'ont pas de morale.
Non, ni de morale, ni de politique. L'enjeu, c'était d'essayer de se débrancher, justement, de ces questions de valeur, de ces questions de sens, et qu'on a besoin de vivre aussi. La morale, c'est ce qui donne l'ensemble, le champ de nos devoirs, ou la vie bonne. Je ne crois pas que ce soit la vie bonne de souffler des bulles de savon. On n'est pas obligé d'en souffler, on n'est pas interdit, personne nous interdit d'en souffler. Et en un autre sens, il y a peut-être une morale quand même, qui est en une phrase, qui est qu'aucun malheur, aussi grand soit-il, n'est un argument contre la joie. Ça peut être un argument contre le bonheur, mais pas contre la joie.
C'est une très belle conclusion en tout cas. Merci infiniment Pierre Zawi. Je recommande chaleureusement ce livre « Beauté au pluriel de l'éphémère, apologie des bulles de savon ». C'est publié aux éditions du Seuil. Je vous souhaite une excellente journée. Il est 9h20 et comme chaque vendredi, je passe le relais à Rebecca Manzoni. Et pour Totémique aujourd'hui, Rebecca, vous avez rencontré la comédienne, chanteuse et metteuse en scène Caroline Loeb.
Et c'est drôle parce qu'avec elle, il sera aussi question de bulles de savon et de Brigitte Fontaine que vous nous avez fait écouter. À votre avis, quelle est la devise de Caroline Loeb, Ali?
Je serais tenté de dire c'est la ouate, mais ça ne doit pas être ça.
Non, c'est pas ça. Sa devise, c'est plutôt punk un jour, punk toujours.
Et vous l'avez rencontrée où, Caroline Loeb?
Dans un théâtre au cœur de Paris, là où elle joue tous les dimanches après-midi.
Alors, les loges, et puis on va aller dans le petit salon. J'adore parce qu'à chaque fois, on passe devant Arletty, ma copine.
Sur le mur, en 4x3, un portrait d'Arletty en noir et blanc.
Voilà. Sachant que ça s'appelle quand même Les Enfants du Paradis.
Ah, c'est magnifique, c'est magique, hein. On se pose là.
Allez.
C'est l'histoire d'une femme qui pourrait faire sienne cette phrase de Françoise Sagan, qu'elle a d'ailleurs jouée sur scène. Cette phrase, c'est « Je ne renie rien ». Elle déboule à deux, en maxi-pull ou mini-robe, ras la culotte, comme elle dit. Caroline Loeb et Caroline Montier mènent un spectacle logiquement intitulé « Les deux Carolines ». Elles jouent, elles kiffent, elles chantent des choses comme « J'en ai marre de tout le temps me taire, de se rebiffer, c'est pas ce qui me fera bouffer, mais faut que ça sorte ». Une vingtaine de chansons des années 30 à nos jours, interprétées par des pétroleuses et autres badasses, qu'elles font revivre sur la scène du théâtre « Les Enfants du Paradis ». Caroline Loeb s'est choisie plusieurs femmes dans son parcours d'artiste. Françoise Sagan, je l'ai dit, mais aussi George Sand, Miss Tinguette ou Madonna. Elle fut copine de Viré, du cinéaste Jean Eustache, fut l'un des personnages des Nuits parisiennes, chanteuse de variété pour un tube, c'est la ouate, puis autrice, metteuse en scène, productrice. Bonjour, bienvenue pour une échappée avec Caroline Loeb.
Totémique. Rebecca Manzoni sur France Inter.
C'est marrant parce que là, on est quand même au cœur de Paris.
Au pied des Folies Bergères.
Au pied des Folies Bergères.
Ce qui n'est pas un détail.
Et en même temps, j'ai découvert que vous aviez grandi à New York. Vous viviez où, à New York?
Oh, alors j'ai eu la chance d'avoir une enfance absolument magique. Mon père avait ouvert une galerie de tableaux à New York, sur Madison. Et donc, on a habité pendant 6 ans devant Central Park, dans une des tours historiques de New York qui s'appelait El Dorado Towers. Pardon pour mon accent américain. Mais voilà. Donc, c'est vraiment l'enfance, quoi. L'enfance est américaine, avec les feuilletons complètement déments à la télé, c'est-à-dire que c'était The Addams Family, The Mickey Mouse Club, Ed Sullivan Show, où je me souviens qu'on avait vu la première apparition des Beatles à la télé, puis mon père avait dit « ça ne marchera jamais ». On avait beaucoup ri parce qu'on trouvait qu'ils étaient ridicules avec leurs cheveux longs. Et tous les Noëls, Le Magicien d'Oz à la télé. Donc, comme tous les Américains, Le Magicien d'Oz, moi, c'est mon cœur, quoi. C'est extraordinaire. Et c'était une enfance absolument magique. Et donc, comme on était en face de Central Park, je crois au 24e étage, on avait le jardin à nous. C'était notre jardin. Et par la fenêtre, on voyait le bonhomme de neige qu'on avait fait devant la maison. On voyait notre père partir faire du ski. Parce qu'en hiver, il y avait beaucoup de neige. Mais c'est vrai que toute ma vie, je peux quand même le dire, toute ma vie, j'ai regretté qu'on ait quitté New York. Et chaque fois que j'y remets les pieds, c'est vraiment très très fort, quoi. C'est ma ville, c'est tout ce que j'aime.
Et en même temps, quand on est spectatrice de vos spectacles, notamment les spectacles musicaux, c'est un répertoire qui est quand même très français.
Oui, c'est Paname, c'est Paname.
Voilà, avec comme fil rouge, entre autres, une certaine gouaille, puisque vous dites Paname.
Oui, oui.
Ça vous vient d'où, ça?
Oui, je sais pas, parce que moi, je suis biberonnée en même temps de Mae West, de Fanny Bryce, de Sophie Tucker, qui était encore avant. Donc, ces grandes humoristes juives américaines, à part Mae West, je pense pas qu'elle était juive. Et en même temps, Arletty, donc on a vu la photo là dans le couloir. Je sais pas d'où ça me vient, ce goût, mais j'ai toujours aimé ça, que ça soit en anglais ou en français. J'ai toujours aimé les gonzesses qui en avaient sous le pied, qui n'avaient pas la langue dans leur poche, qui inversaient les codes masculin-féminin, qui vannaient. J'ai toujours adoré ça.
Quand je vous entends dire ça, l'inversion des codes, tout ça, c'est le cabaret aussi.
Oui, mais c'est pour ça que moi, j'adore le cabaret. Et là, je suis très heureuse d'en faire à nouveau parce que j'en ai déjà fait. Ce qui est absolument génial avec le cabaret, c'est que c'est un espace de liberté absolue. C'est-à-dire qu'on peut interagir avec le public, on peut vanner le public. Moi, je tutoie les gens. C'est quelque chose qui est tellement vivant. Ça chante, ça danse, c'est joyeux. Et c'est punk et c'est trash. Et enfin, c'est comme ça que j'aime le cabaret, en tout cas.
C'est punk ?
Ah oui, le cabaret, c'est punk. Si c'est du vrai cabaret, oui.
En quoi c'est punk pour vous ?
C'est nos futurs. Là, hier soir, j'ai chanté avec des gens que j'adore, enfin que je vénère, qui sont pour moi les artistes les plus incroyables à Paris en ce moment depuis quelques années, qui sont les gens du cabaret Le Secret, avec des propositions très âpres, très violentes, très drôles. Alors les gens hurlent de rire et en même temps, tout ce qu'ils font, c'est au bord du gouffre.
Des genres aussi.
Hommes, femmes, voilà, tout ça, ça navigue dans la même personne, dans la même chanson, ça passe par toutes les couleurs du genre. Oui, moi j'aime bien quand ça navigue d'un genre à l'autre, et c'est pour ça que j'ai fait le spectacle Georges Sand, et puis Françoise Sagan, qui étaient des femmes aussi, qui étaient très très ambivalentes, et qui naviguaient du masculin au féminin tout le temps.
Dans Les Carolines, spectacle chanté et joué par Caroline Loeb et Caroline Montier, il y a beaucoup d'autres femmes. Miss Tinguette, Gloria Gaynor, en passant par Brigitte Fontaine. Sur scène, Caroline Loeb reprend deux des chansons de Fontaine, dont celle-ci, Prohibition.
J'ai d'autres projets, vous voyez ? Je vais baiser, boire et fumer. Je vais m'inventer d'autres cieux. Vaste et précieux, je suis vieille et je vous en avec mon look de libellule. Je suis vieille sans foi ni loi, et si je meurs, ça sera de joie. J'avais envie qu'on s'amuse, j'avais envie de vraiment. De me fondre la gueule. Et Caroline Montier a un peu plus de 50 ans, à peine plus. Moi, j'en ai 68. Bon, voilà, ça ne me pose aucun problème. Si ce n'est qu'il y a un moment donné, je me dis, le luxe ultime que je peux m'offrir, c'est de faire l'andouille, de faire le pit, de m'amuser. Et en même temps, avec cette conscience aiguë que j'ai de l'âge que j'ai, qui est que je ne sais pas combien de temps il me reste, pas des tonnes non plus, que quand même vieillir, ce n'est pas que marrant, loin s'en faut, le corps commence à se barrer gentiment en sucette, ce n'est pas toujours très agréable, mais ce qui est formidable avec le temps qui passe, avec l'âge, c'est qu'on se sent quand même extrêmement libre. Enfin, en tout cas, moi, ça, je me sens d'une liberté comme je me suis rarement sentie. Et donc, le spectacle, il parle de ça aussi, du fait que qu'on est vieille, et je ne vais pas citer exactement Brigitte Fontaine, mais qu'on les emmerde, quoi. Qu'on fait ce qu'on veut et qu'il n'y a pas d'âge pour faire les choses les plus importantes pour soi, quoi. Pour que ça soit chic, c'est ça aussi. Moi, ce que j'aime, c'est le mélange du chic et du trash. C'est-à-dire qu'on est dans des robes hyper chic et puis tout à coup, on fait vraiment les imbéciles, quoi. Mais c'est ça qui est bien.
Punk, comme vous dites.
Ouais. Punk un jour, punk toujours, ben oui, bien sûr.
Donc ça veut dire que vous l'avez été, vous, punk ?
Oui, alors, j'avais pas l'accoutrement, j'avais pas les...
Les épingles à nourrice ?
Les épingles à nourrice dans la joue, ni les roquois. Mais c'est vrai que, moi, ma vie, enfin, je veux pas dire ma vraie vie, a commencé au Club 7, mais quasiment.
C'était quoi, le Club 7 ?
Ah, le Club 7, c'était la boîte la plus branchée de Paris au milieu des années 70. Et... c'était tenu par Fabrice Aymer, qui ensuite a fait le Palace. C'était une boîte de garçons. Et on y allait tous les soirs. Tous les soirs. Et il y avait Warhol, Paloma Picasso, Saint-Laurent, Lagerfeld, Kenzo. et j'en passe, tout le monde était là. Et nous, on rentrait parce qu'on était mignons. Moi, je faisais partie des rares filles qui étaient là. Tout ça pour dire que c'est là que j'ai rencontré les gens qui ont vraiment forgé ma culture, mon goût du musical, mon goût du mot d'esprit. Ils étaient tellement cultivés, tellement drôles, tellement rapides, tellement brillants. J'ai vu Tom Waits au Palace, c'était extraordinaire. J'ai vu Tina Turner au Palace, c'était dingue. Elle devait avoir 50 ballets, elle était en mini-robe, mais ras la culotte. Il y avait des filles qui dansaient derrière elle, qui devaient avoir au moins 20 ans de moins qu'elle. Mais alors elle envoyait du bois, elle était démente. Donc oui, j'ai vu des gens comme ça qui m'ont collé au plafond. Moi, j'ai toujours pensé que les années 80, c'est ce qu'il y avait de plus proche des années folles. C'est-à-dire la défonce, la baise, la musique, la nuit... l'esprit, une espèce de folie comme ça. Donc c'est vrai qu'on sortait pas de la guerre. Après, on a eu une autre guerre à nous avec le sida, quand même, qui a été un bon coup d'enclume sur la tête.
Il y a le côté danser sur un volcan.
Tout à fait, danser sur un volcan. Mais moi, j'ai toujours pensé qu'on dansait sur un volcan. Et les gens ont beaucoup la nostalgie des années 80. Mais moi, je me souviens que c'était pas la fête au village tous les jours. Enfin, qu'il y avait aussi beaucoup de désespoir... voilà, je fais partie d'une génération qui est post 68 avec beaucoup d'injonctions de liberté, de jouir sans entrave, etc. Et moi, je trouve que ça a fait aussi beaucoup de dégâts parce que on n'avait pas de limites, on nous a pas appris, enfin en tout cas à moi, à se respecter, à respecter notre corps. Donc avec la défonce, avec tout ça, on était vraiment en roue libre. Enfin, le fond de l'air était frais, quoi, quand même. Donc, tout ça, avec du disco, avec des couleurs fluo, avec... Mais, t'es au bord du gouffre. En même temps, moi, c'est ça qui m'intéresse. Quand je vais au théâtre, ce qui m'intéresse, c'est de voir des gens qui sont au bord du gouffre. Et quand je lis quelque chose, ou quoi... Voilà, j'aime sentir que l'abîme est juste là, sous nos pieds.
Pourquoi vous aimez ça ?
Parce que c'est ça, la vie. Moi, c'est ça que je voulais faire. Et c'est un peu ça que j'essaye de faire aujourd'hui. C'est-à-dire passer du rire aux larmes. Et même si on fait l'imbécile, même si on a une grande gueule, même si on vanne et tout, ce qui fait que ça touche les autres, c'est que c'est la fragilité, je crois.
Comme avec ce grand-père galeriste, votre père galeriste aussi, je crois que votre mère est écrivaine et éditrice, exercer une activité dans le milieu des arts... Pour vous, c'est une évidence, j'imagine.
Oui.
Non, c'est pas sûr.
C'est pas ça. C'est que moi, ce que je fais, j'ai envie de dire, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'ils font, eux.
Pourquoi vous dites ça?
Parce que d'abord, marchand de tableau, c'est pas artiste. Même si mon grand-père était un marchand assez exceptionnel. Et c'était une époque où les marchands... ressemblaient aux artistes, ce qui n'est plus du tout le cas.
Et qui en avaient le regard, en tout cas.
Et qui en avaient le regard. Et ils étaient très proches d'André Breton, de Giacometti, d'Artaud. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui avait un rapport vraiment intime avec ces artistes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de marchands de tableaux qui n'ont pas ce rapport-là. Mais on est aujourd'hui dans un monde où c'est beaucoup plus des hommes d'affaires. C'est du business. Hein, voilà, maintenant, ma mère, c'est vrai, elle a toujours été... écouté beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique, lu beaucoup de livres. Donc, elle était vraiment plongée dans l'art. Et ça, elle m'a sans doute... donner ce goût fou de l'art. Mais ce que je fais, c'est très différent de ce qu'ils font quand même. Je me sens très différente d'eux.
En quoi ?
Je peux pas répondre.
Voici une diva de deux Amériques. Celle du Sud... et celle du Nord, c'est Kali Uchis, Temata, c'est le titre du morceau qui suit.
Vea pues, a mí me gusta que vean lo feliz que soy sin ellos. Encontrar mis propias alas y yo me guardaba ese dolor dentro de mi alma con calma
Caroline Loeb est l'invitée de Totemic jusqu'à 10h. Et avant de vous faire écouter la suite, rapide rappel de deux dates, comme deux moments de bascule dans sa vie. 1986, elle connaît le succès en France et en Europe, avec C'est la Watt, chanson qu'elle a co-écrite. 1993, elle crée sa première mise en scène pour Michel Hermon au Théâtre des Bouffes du Nord.
J'ai changé complètement de place dans le métier parce qu'avant j'étais comédienne, chanteuse, j'écrivais bien sûr, mais j'étais pas à la place du chef, j'ai envie de dire. Et metteuse en scène, c'était moi qui disais au type des Lumières, qui était un des meilleurs de Paris, ce que je voulais. C'était les entrées, les sorties, les gestes. Travailler sur la musique aussi, parce que j'ai essentiellement mis en scène des spectacles musicaux. J'ai regardé pendant des années des émissions sur des grands chefs d'orchestre. C'est fascinant, les chefs d'orchestre. C'est des gens qui sculptent la musique. Ça me fascine complètement. Et voilà, donc la mise en scène, c'est sculpter le texte, sculpter les lumières, et puis travailler avec un autre corps que le sien. Enfin voilà, ça m'a vraiment...
Mais c'est-à-dire que vous avez eu l'impression, à partir du moment où vous êtes venue metteuse en scène au début des années 90, de vous respecter plus à ce moment-là que quand vous étiez regardée ?
Ah oui ? Oui, parce que, bon, d'abord, comédienne, j'ai envie de dire, c'est quand même un boulot de merde, hein, parce que faut être choisi par quelqu'un d'autre, faut être désiré par quelqu'un d'autre. C'est quand même pas gagné. Chanteuse, même quand on écrit soi-même ses paroles ou qu'on les coécrit, en plus, moi, j'ai jamais eu l'ambition d'être chanteuse, moi, je suis une actrice qui chante, voilà, c'est plutôt ça. Mais surtout quand ça marche, comme ça a marché, non, on n'est pas vrai, on n'est pas très respecté. Non, non.
Pourtant, on peut se dire, on est d'autant plus respecté que ça marche.
Non, le succès est quelque chose de très. Il y a beaucoup d'écueils au succès. C'est très violent, c'est très dur. Ça, d'abord, ça casse tous les rapports avec les autres, les rapports intimes, les rapports familiaux. Il y a marqué vue à la télé partout. Et. Surtout quand ça marche fort comme ça, non, on devient la fille qui ramène du pognon, je sais pas. Non, je me suis pas sentie respectée, non. Non, je l'étais pas. Mais, ouais, être vedette de variété, c'est pas forcément une place si géniale que ça, en fait. Enfin, je préfère de très très loin ma place aujourd'hui. Alors ça, là, il n'y a pas photo. Hein. Maintenant, j'ai envie de quelque chose, je me l'offre moi-même. Je le produis moi-même, je l'écris, je le mets en route moi-même.
Vous vous êtes réinventé plein de fois, en fait.
Oui, j'essaye. Enfin, j'essaye, j'y arrive d'ailleurs. Mais en même temps, je vais vous dire, moi, je m'en fous de la notoriété. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis dans un truc très direct. Je travaille, je fais des choses avec des gens que j'aime. C'est aussi, je pense, l'avantage de se produire soi-même. C'est que on est dans des trucs très, très concrets. Quand j'arrive au théâtre, il a fallu acheter des lampes, acheter un câble, des piles pour les micros. Ben, voilà, tout ça, c'est de la vraie vie partout, quoi. J'arrive pas sur scène comme la cerise sur le gâteau, comme une petite chose qu'on a sortie d'une boîte. Et attention, parce qu'elle va se casser, parce qu'elle est très, très fragile. Ça m'intéresse pas du tout, ça. Donc, non, c'est les mains dans le moteur tout le temps. Et donc, voilà, je sais aussi, du coup, cette heure ou 7h10 que je passe avec le public, je sais pourquoi je suis là, je sais combien ça me coûte. Et le luxe suprême que c'est de partager ce moment qui, pour moi, est essentiel et vital, de vérité, de drôlerie, de désespoir, de vie, d'émotion, et d'avoir les gens en face de moi et de sentir qu'ils rient avec ce qui me fait rire, qu'ils pleurent avec ce qui me fait pleurer, c'est des moments qui n'ont pas de prix, en fait.
On va écouter le tube que vous avez choisi. Alors.
Oui, c'est Gainsbourg au Casino de Paris. C'est des passions au-dessus du jardin. C'est sublime.
Dépression au-dessus du jardin. Ton expression, ton chagrin. Tu as lâché ma main. La fin, les fleurs ont perdu leur parfum. Qu'importe un homme.
Oui, pour moi, c'est une des plus belles chansons de Gainsbourg. Enfin bon, j'ai commencé à écrire des chansons parce que j'écoutais Gainsbourg en boucle et que j'adorais ça. Et...
C'est lui qui vous a donné envie d'écrire ?
D'écrire des chansons, oui. Et Dépression au-dessus des jardins, c'est... Voilà, on sent toute sa douleur, sa nostalgie. Puis voilà, dépression, on est tous... Enfin, en tout cas, moi... Toujours avec une dépression latente. Enfin, la dépression est là quotidiennement. Donc, le jeu, c'est d'en faire quelque chose. Mais Gainsbourg, c'est très noir, hein. C'est très, très sombre quand même. C'est toujours sur la perte, sur l'amour qui fout le camp. Mais oui, celle-là, je la trouve vraiment très, très bouleversante.
Tellement tu t'es égaré en chemin, tu sais de me faire croire. Enfin. Que l'amour revient dans l'été prochain.
Vous l'avez rencontré, Gainsbourg ?
Oui, bien sûr, je l'ai rencontré, j'ai même travaillé avec lui. J'ai eu, dans une de mes vies antérieures, j'étais styliste photo. J'avais travaillé avec Mondino, que j'ai adoré, qui m'a fait tellement rire et qui m'a appris tellement de choses. Et alors lui, super vanneur aussi. Donc c'est vrai que quand je fais de la mise en scène, ça vanne non-stop. Et donc j'ai vraiment appris ça avec Jean Batte. Et en même temps, une grande rigueur. Et donc, j'étais styliste photo. Et un jour, je reçois un coup de fil de Gainsbourg qui voulait faire un livre avec Bambou. Il s'appelait Bambou et les poupées. Et donc, j'étais chez lui rue de Verneuil. Il m'a proposé un bullshot à 10h du matin, c'est-à-dire consommer de bœuf avec du gin.
La vache.
Bon, j'ai refusé quand même 10h du matin, c'est un peu tôt. Et c'était en 82. Il fallait trouver un petit lit d'enfant en fer forgé, fastoche, et des poupées gonflables. Et donc, j'ai arpenté la rue Saint-Denis avec un Polaroid. J'ai fait tous les sex shops de la rue Saint-Denis. À l'époque, c'était avec les petits rideaux en perlouse. Et je leur demandais de me montrer les poupées gonflables. Et les types me montraient des boîtes dans lesquelles il y avait du plastique avec juste la tête... Et un trou à la place de la bouche avec les yeux, avec du turquoise et tout. C'était mais immonde. Donc je revenais avec mes petits Polaroids, je montrais ça à Gainsbourg qui avait juste envie de gerber comme moi. Et finalement, j'ai trouvé une poupée qui était en latex, qui était magnifique, à Pigalle. Et on a pris un taxi un matin et il a été en acheter 3-4. Et il s'est enfermé dans le studio avec... avec Bambou, et il m'a foutu dehors. Il m'a pas crédité sur le livre, enfin, je m'en fous, je n'en veux pas. Mais en tout cas, j'étais très, très heureuse de le rencontrer, très touchée. Et je me suis souvenue, beaucoup d'années après, en lisant le très beau livre de Bertrand Dical, Lise et Lulu, j'ai découvert que donc, la première femme de Gainsbourg qu'il a rencontrée quand il était à la Grande Chaumière, quand il était peintre, elle était modèle, et elle lui a dit, si tu veux... je te trouverai le meilleur galeriste de Paris. Et elle avait été voir mon grand-père. C'est quand même incroyable. Et mon grand-père l'avait reçu et il lui avait dit, si vous me rapportez 40 œuvres, je l'expose. Et Gainsbourg avait tout bazardé, donc elle n'est jamais revenue voir mon grand-père. Mais quand j'ai lu ça, je me suis souvenue que Gainsbourg m'avait demandé si j'étais pas la petite fille de Pierre Loeb. Et sur le moment, j'avais pas percuté. Et quasiment... plus de 30 ans après, je me suis dit, ah ouais, quand même, il s'était souvenu de Pierre Loeb, mon grand-père, qui avait été un très très grand marchand.
Comme là, on écoutait Gainsbourg, en l'occurrence, c'était un morceau live au Casino de Paris. Vous qui avez enregistré, est-ce que vous avez aimé tout le travail en studio ?
Moi, j'ai beaucoup souffert en studio, en fait. Premier album que j'ai...
Ah bon ?
Ouais, je n'ai pas du tout aimé ça au début. Parce que j'avais fait du cinéma, j'avais fait du théâtre... je savais pas du tout comment ça marchait. Alors bon, j'ai eu la chance d'enregistrer mon premier album à Electric Ladyland à New York, le studio de Jimi Hendrix, blablabla, avec des super musiciens. Mais je savais...
Blablabla. Ouais, j'ai enregistré à New York au studio de Jimi Hendrix, blablabla.
Non,
c'est surtout la fille qui s'en fout d'avoir joué dans le studio de Jimi Hendrix.
C'est bien, mais ça n'empêche pas que j'étais pas du tout heureuse. Parce que je comprenais pas du tout comment ça marchait, parce que je chantais hyper mal. C'était affreux. Non, mais sans déconner, quoi. Je savais pas du tout faire ça. Donc, j'avais écrit les textes. Je sais que mes textes, ils étaient vachement bien. Les chansons étaient bien. Mais quelques années après, j'ai demandé, est-ce qu'on pouvait pas refaire les voix? Le gars m'a dit, bah non, on peut pas refaire les voix. Mais je regrette, parce que si j'avais pu mettre des voix un peu moins pourries, l'album, il serait vachement bien.
Mais alors, comment vous vous êtes retrouvée devant un micro?
Ben parce que j'avais écrit ces putains de textes. Puis pour moi, en plus, avec la culture américaine, on joue, on chante, on danse, on fait des claquettes.
Bon, tout est possible.
Tout est possible. Ça fait partie du panel de ce qu'on peut faire. Mais sauf que j'avais jamais travaillé ça. Donc je me faisais insulter. C'est vraiment quand j'ai fait mon dernier album. Alors là, pour le coup, qui va être le dernier, parce que ça sert absolument à rien de faire des disques aujourd'hui. En tout cas, pour moi, ça intéresse personne, c'est pas grave, je le remets dans ma culotte. Mais mon dernier album, qui a été réalisé par Jean-Louis Pierrot, là, j'ai eu du plaisir, j'ai eu plus de plaisir. Mais c'est pas quelque chose que je maîtrise. Au théâtre, je sais faire des lumières. J'ai déjà fait des lumières, j'ai tenu des poursuites. Mais alors, le son, je n'y comprends rien. Quand les gens disent « Oh, putain, il y a un putain de son », je sais pas de quoi ils parlent.
Franchement, c'est l'une des chansons du nouvel et excellent album de Bonnie Banane.
Rebecca Manzoni, c'est totémique sur France Inter. C'est un métier.
La voix que vous avez choisie, et tout à l'heure on est passé devant sa photo, c'est Arletty. On va écouter un extrait d'une interview, un extrait de l'émission Radioscopie précisément, avec Jacques Chancel. Donc on est en 1972.
Dans la vie, j'attaque.
Vous êtes toujours attaqué, d'ailleurs.
Toujours.
Vous attaquez encore?
Je crois jusqu'à la fin.
Je l'adore.
C'est ce qui fait une vie.
Quoi?
C'est ce qui fait une vie.
Oui.
J'adore son rire.
Mais vous n'avez pas de raison, Arletty, de vous défendre en ce moment.
Nous en avons tous des raisons de nous défendre, hein. Si on n'est pas comme ça.
Elle est trop mignonne.
Vous avez l'ironie percutante, hein.
Je ne sais pas, c'est vous qui dites ça.
Il y avait dans
je le... suis véhémente, surtout.
Je suis véhémente, surtout.
Ça me dessert, cette véhémence. Ça me sert et ça me dessert. Je suis véhémente. Ah, si là, je suis véhémente.
Non, vous êtes directe.
Vous trouvez?
Oui.
Bah oui, voilà, frangine absolue. J'adore, dans la vie, j'attaque. Je m'identifie à 100%. Alors, la fois que je l'ai rencontrée, Arletty... Elle était tellement rapide, tellement enfantine, c'était extraordinaire. Et ce petit rire comme ça, elle glousse, j'adore. Et donc, comme elle était déjà complètement aveugle, elle avait mis ses mains sur mon visage. J'avais des énormes boucles d'oreilles. Elle était tombée sur les boucles d'oreilles. Elle avait « Oh, mais qu'est-ce que c'est beau !» Et alors, mes copines lui avaient dit « Oui, puis c'est marrant, Caroline Love, elle a la bouche de travers. Comme Maud Loti, c'était la reine des boulevards, ça vous portera chance. » Elle était merveilleuse.
Et avec l'incarnation d'une liberté d'expression.
Oui, elle assumait tout. De toute façon, moi, j'aime ces meufs-là. Hein. Puis elle aussi, elle naviguait entre le masculin et le féminin. Elle a quand même une grande histoire d'amour avec une femme. Elle a jamais rien renié, comme dirait Sagan. Et même son histoire avec son Allemand, elle a assumé ça crânement. Un de ses grands mots d'esprit, quand même, c'est quand elle est sortie de prison, elle a passé quelques semaines, quelques mois, je ne sais plus. Alors, Madame Arletty, comment vous sentez-vous ? Pas bien résistante ! Oh, mais c'est un génie.
Y compris dans son jeu, parce que là, on parle surtout du personnage.
Alors, elle fait partie des gens qui sont au-dessus de tout ça. C'est-à-dire que le personnage est tellement fort qu'elle n'a pas besoin ni d'être juste, ni quoi que ce soit. Ceci dit, elle l'était juste. Mais elle a quand même commencé à chanter sur les boulevards, dans des spectacles de variété. Et quand elle a rencontré le gars qui l'a fait travailler, il lui a dit « Est-ce que vous chantez comme une casserole ?» Ça ne l'a pas empêché de faire un carton avec une voix mais vraiment pourrie. Elle chantait vraiment très très mal. Moi, ça me fascine, les gens comme ça, qui font toute une carrière en faisant un truc qu'ils font pas très très bien. Mais c'est pas ça qui est important. C'est pas combien de notes tu mets dedans, on s'en fout. C'est l'humeur, c'est l'énergie, c'est l'humour. Moi, mes artistes préférés, c'est Alain Souchon, c'est Françoise Hardy, c'est Jacques Dutronc, c'est Gainsbourg. C'est des personnalités, c'est l'intelligence des mots, c'est une façon d'incarner qui fait que personne d'autre que toi ne peut le faire comme ça. C'est ça que j'adore.
Quel est le rôle de l'amitié dans votre vie ?
Ah ! J'ai un peu envie de dire, c'est Gainsbourg disait, je compte mes amis sur la main droite ou la main gauche de Django Reinhardt.
Ouais. Qui avait perdu deux doigts.
Voilà, qui avait perdu deux doigts. C'est pas facile, l'amitié.
Pourquoi ?
Bah, c'est pas facile, la vie. Je sais pas comment dire ça sans que ça soit totalement grotesque. J'ai beaucoup souffert, non mais sans déconner. Et je pense qu'il y a un moment donné, ça éloigne aussi les gens. C'est pas évident, quoi. Mais j'aime rire avec les gens avec lesquels je peux dire les choses les plus graves. C'est là que je peux rire le plus. J'aime essayer d'aller derrière les masques. C'est pour ça que j'ai adoré Sagan. J'aime essayer d'aller le plus possible au fond des choses et derrière les mots et dans les silences. Et voilà, je ne supporte pas un truc qui n'est pas juste, même dans la conversation la plus anodine. S'il y a un truc qui est bidon, ça me rend hystérique. Les pensées toutes faites, enfin, je ne sais pas comment dire.
Donc, ça veut dire que assez rapidement, vous avez dû être difficilement compatible à ce qu'on appelle le show business. Parce qu'il y en a du bidon
Oui, mais c'est pour ça que je suis très contente de faire ce que je fais aujourd'hui, parce que je n'ai de compte à rendre à absolument personne. Il n'y a pas quelqu'un qui vient m'expliquer que l'eau ça mouille et que le feu ça brûle, parce que... Moi, une de mes phrases préférées que je cite souvent, ben là, c'est vraiment pour faire ma maligne, c'est « M'aide pas, j'ai pas le temps ». C'est une phrase de Coluche. Eh ouais.
On fait la séance photo ?
Ouais. Alors, attends, pas trop près, parce que je suis vraiment moche.
Vous dites ça, vous, pas trop près, parce que je suis vraiment moche.
Ouais.
Eh ben... Allez-y, prenez-la.
Bah dans J'en ai marre, quand j'entends Arletty, de voir quand on m'approche que les gens me trouvent moche, moi j'en ai marre, ça me fait rire de dire ça tous les soirs.
Vous vous êtes jamais trouvée belle ?
Non, pas vraiment, mais je m'en fous, ça m'arrange. Hein.
Vous arrange ?
Oui, ça m'arrange, parce que les gens qui ont été très très beaux, bah, après ils le sont un peu moins, et après ils souffrent. Moi je souffre pas, je suis plutôt mieux qu'avant. Donc, C'est pas mon fond de commerce, on va dire. Bon, après, sur scène, on essaye d'enrober un peu la marchandise pour que ça soit... pour que ça fasse envie. Oh putain, comme je me vends bien.
C'était la séquence promo.
Ah, la fille qui se met vachement en valeur. Bah, je suis pas si mal.
Alors
non, ça va. J'ai l'air gentille.
Alors que vous l'êtes pas?
Pas que. Oh, la gentillesse, au secours. La bienveillance, au secours. Putain, je supporte plus tout ça.
Pourquoi?
Parce que c'est bidon. La vie, c'est violent, c'est génial, c'est drôle, c'est beau, c'est tout ce qu'on veut. Mais c'est pas bienveillant.
Merci beaucoup, Caroline.
Merci, Rebecca.
Caroline Loeb et Caroline Montier jouent les deux Carolines chaque dimanche à 16h sur la scène du théâtre Les Enfants du Paradis à Paris. Elles sont accompagnées au piano par Vincent Gaillard et ils seront au Festival d'Avignon du 3 au 20 juillet, chaque jour à 16h25, au Grand Café Barretta. Goyenne Guyenne réalise Totémique et c'était avec Alexandre Chenet ce matin. Perrine Malinge programme nos invités, Ilinka Negulesco assure la préparation et JB Audibert prend soin de nos musiques. La semaine prochaine, je vous propose de rencontrer la comédienne Golshifteh Farahani et la semaine qui suit, vendredi 17 mai, rendez-vous avec Billie Eilish. Et maintenant, Ali, t'es là? Quel est le programme de Grand Bien vous fasse aujourd'hui?
Salut. J'ai plus de voix.
Oh mon pauvre.
Est-ce que tu peux me prêter ta voix, s'il te plaît?
D'accord.
Ce matin, on s'intéresse au barbecue. Avec deux cadors du barbecue. Et toi, on te retrouve au Masque et la Plume,
oui,
dimanche à 10h et à 20h. Le programme?
Le programme, ce sera des livres, dont le nouveau Salman Rushdie, le nouveau Le Tellier, etc., etc.
Dimanche, 10h et 20h.
Je suis avec toi pour l'heure qui suit.
Merci.
France Inter présente On ne présente pas avec l'humour.
La tournée des humoristes France Inter, c'est reparti. Oui, la fine fleur de l'humour du service public, celui qui vous met en joie chaque jour, is back. Oui, l'humour, tous les humours, même l'humour drôle.
On ne plaisante pas avec l'humour, le 24 mai à Clermont-Ferrand et le 23 juin à Lyon.
Au casting, il n'y a que du bon et même de l'excellent.
Toutes les infos sur franceinter.fr.
C'est le printemps et donc la saison des délicieuses fraises françaises. Savourez dès maintenant nos gariguettes, sifflerettes, charlottes et autres fraises rondes. Les fraises de France sont uniques en goût. Laissez-vous aller. Spot financé par les producteurs de l'AOP nationale Fraises Framboises de France.
Oh, mince, une fuite en plein yoga. Ah mais ouf, je peux me donner à fond sans crainte maintenant avec Always Discreet. Ça retient toutes mes fuites urinaires et je me sens protégée dans toutes les situations. Always Discreet, protection fiable, discrétion incroyable.
Dispositif médical.